Docteur Éric Delaporte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INSERM et à l'IRD, auteur de cette étude concernant la vie après Ebola. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur ces chiffres qui ont beaucoup évolué à l'époque ?
Les trois pays qui ont été touchés les plus fortement sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, comme vous le savez. Et c'est vrai que les chiffres de Sierra Leone et Libéria paraissent beaucoup plus importants que ceux de la Guinée, pour une raison simple, c'est qu'au Libéria et en Sierra Leone, on a inclus dans les statistiques les cas suspects et confirmés. Et donc, il y a plus de survivants dans ces pays parce qu'il y avait probablement, parmi ces survivants, beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément confirmés Ebola. La différence avec la Guinée, c'est que les chiffres sont extraordinairement précis. C'était des cas confirmés par la recherche de virus dans le sang. Donc, c'est 3814 cas. Et le nombre de morts, c'est 2544. Et puis, il y a 1270 survivants à cette épidémie.
Alors, de quoi souffrent exactement ces personnes encore aujourd'hui ?
Alors, ils souffrent d'un ensemble de symptômes. Certains, d'abord, ces symptômes, il faut dire qu'ils sont très fréquents, hein, puisque c'est 3 personnes sur 4 qui souffrent de symptômes, plus ou moins graves. La plupart du temps, les patients les tolèrent assez bien, mais ce sont à la fois des signes généraux, de type fatigue chronique sur le temps. Hein. Dans notre étude, c'est près d'un an après la sortie, on s'aperçoit que la fatigue perdure, que dans 22% des cas, il y a des douleurs abdominales, des douleurs musculaires dans 40% des cas. Il y a des troubles ophtalmologiques, hein, type parfois une baisse importante de l'acuité visuelle dans près de 20% des cas. Et puis, il y a des troubles neurosensoriels, type de vertige dans 47% des cas. Et puis, à côté, bien sûr, il y a des troubles psychologiques de type syndrome dépressif. Donc, on voit que ces troubles sont variés. Il y a deux types de troubles. Il y a peut-être ceux qui sont liés à un post-stress, un post-traumatique, c'est tout ce qui va être autour de la dépression, de la douleur. Et puis, il y a d'autres manifestations cliniques qui sont liées, et ça, c'est une découverte, aux manifestations de l'infection après la phase aiguë qui perdure sur le temps.
Et qui a été suivi dans cette cohorte ?
Alors, on suit 802 survivants exactement sur les 1270 officiels de la Guinée, des adultes et des enfants, et c'est ça l'originalité de cette étude, c'est que vraiment tout le monde a été pris en charge, à la fois en Guinée forestière, à Nzérékoré et à Macinta avec le docteur Savané, et puis également à Conakry avec le docteur Saliou Sow et Mounié Bari, et à Doulaye Touré, et puis également à Forêt-Caria.
On parle de ces symptômes physiques, mais il y a également ceux dont ces malades souffraient déjà lorsqu'ils étaient contaminés par Ebola. Je veux parler de la stigmatisation. Est-ce qu'on peut comparer cet isolement observé dans Ebola avec d'autres pathologies comme le VIH par exemple ?
Oui, alors cette stigmatisation, c'était 27% des survivants s'en sont plaints. Oui, cette stigmatisation a un impact très important, comme dans le VIH, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'isolement, il va y avoir la perte de l'emploi, d'où la précarité, d'où la dépression, d'où des douleurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a stigmatisation, mais avec une grande différence par rapport au sida, c'est qu'il n'y a pas de connotation morale. Dans le sida, c'est la faute parce qu'on a péché, entre guillemets. Là, non, c'est vraiment une stigmatisation sans connotation morale. Bon, une fois qu'on a dit ça, stigmatisation, c'est toujours la stigmatisation, malheureusement, avec les conséquences que ça peut avoir pour la vie privée.
Docteur Delaporte, est-ce qu'on a observé de tels signes sur les rares survivants des épidémies précédentes, beaucoup plus brèves ? C'était en Afrique centrale, notamment.
Oui, alors... En particulier les travaux de Jean-Jacques Mouyembe, hein, le professeur de l'INRB, qui est vraiment la personne clé dans l'histoire d'Ebola, puisque c'est le premier à avoir été sur l'investigation en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. D'emblée, il s'était aperçu que les rares survivants, pourquoi rares survivants ? Parce que les épidémies étaient petites, elles étaient villageoises, que ces rares survivants pouvaient présenter des douleurs chroniques après l'infection, parfois des baisses de l'acuité visuelle, etc. Mais comme les épidémies étaient petites, on avait du mal à quantifier ces effets secondaires, mais on savait que potentiellement, à distance, les patients pouvaient encore se plaindre. Ce que l'on sait, là, par exemple, sur les grandes cohortes qui vont être en place en Sierra Leone et au Libéria, hein, de façon similaire à celle de la Guinée, c'est que sur le long terme, les signes vont perdurer, là on est à un an, mais que ça diminue avec le temps, mais on n'a pas de date de fin globale, de guérison vraiment totale de l'infection. L'autre chose qui était très importante sur ces études, et celle de la Guinée en particulier, c'est qu'on s'est aperçu que le virus, là aussi on le savait de la RDC, pouvait persister dans le sperme. Mais à l'époque on disait 8 semaines après, quelques mois après. Là on est à 18 mois après la phase aiguë que certains patients avaient encore des traces de virus dans le sperme. Et on sait qu'en Guinée par exemple, lorsqu'il y a eu résurgence en juin dernier de l'épidémie, c'était à partir d'un épisode de transmission sexuelle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, le virus a disparu dans le sperme, donc le risque de transmission sexuelle a disparu aujourd'hui. Mais là aussi, c'était une donnée tout à fait nouvelle qui impose des mesures de prévention qu'on ne connaissait pas avant l'épidémie.
Docteur Éric Delaporte, merci beaucoup.
Merci.